Bonjour Michel Onfray.
Bonjour.
Nous allons parler de ce livre, Le fétiche et la marchandise. Je montre à la caméra. Avant de lire un passage de votre livre, je voudrais que vous nous disiez un mot de cette couverture tout à fait étonnante d'un sculpteur de ce qu'on appelle l'école hyperréaliste. Alors, c'est un Australien, il s'appelle Sam Jinsk. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez voulu montrer. Exactement, ça colle au texte du livre.
Oui, absolument. D'ailleurs, je souhaitais le remercier parce que quand les iconographes de la maison d'édition sont entrés en contact avec lui, alors je suis très clivant, il y a les pour, il y a les contre, et il a dit « Ah, Michel Fonfray, j'adore », etc. Donc je suis très heureux, au contraire. Donc moi, j'étais d'autant plus heureux d'avoir choisi cette œuvre parce que, d'abord, je défends beaucoup l'art contemporain, et c'est un artiste contemporain australien qui, avec le virtuel, nous propose le réel avenir. C'est-à-dire qu'il fabrique des chimères, puisque finalement, ce sont deux corps humains avec des têtes de renard, de chien ou de renard. Et on se dit, bon, tout ça est une fiction, c'est formidable, sauf que cette fiction, elle est susceptible scientifiquement d'être réalisée. On peut fabriquer des chimères, ce qu'on appelait des chimères, un mélange d'hommes et d'animal. Il y a eu des chimères célèbres avec le centaure, par exemple, tête d'homme, enfin buste d'homme et corps de taureau. Et puis, évidemment, ça relevait de la mythologie. Et là, d'un seul coup, ce travail que nous propose l'artiste, c'est l'occasion pour nous de réfléchir parce qu'on est capable de faire ça aujourd'hui. Et parfois, moi, j'ai fait un infarctus quand j'avais une vingtaine d'années, enfin en 88 du siècle dernier. Et je me suis retrouvé dans une maison de repos, de récupération, etc., où on apprenait à une femme musulmane, ce qui était terrible, il y avait quelqu'un qui jouait avec ça, mais c'était terrible, qu'on lui avait greffé des valves de porc, des valves mitrales, cardiaques. Et donc, c'est terrible, cette idée pour une musulmane de porter un morceau de chair animale qui plus est un porc. Ouais. Mais l'idée des xénogreffes, enfin, toutes ces choses-là, on peut aujourd'hui prélever des organes sur des animaux, et il y a juste les problèmes de rejet, vous allez me dire, c'est pas rien. Mais on a aujourd'hui des traitements anti-rejet, puis on peut aussi fabriquer des organes qui n'auront pas les problèmes de rejet, parce qu'ils seront compatibles, d'un point de vue génétique, disons-le comme ça, avec le receveur. Mmh. Et puis peut-être même, on peut aussi développer des organes de celui qu'on greffe. C'est une espèce d'autogreffe qui permet pour le coup d'éviter le rejet, parce que si on a des cellules souches...
Comme les autotransfusions.
C'est absolument ça. Et donc, je me suis dit, plastiquement, c'est quand même une belle œuvre, parce que c'est tout de suite... ça nous saute à la gorge tout de suite. On se dit, c'est vrai, mais c'est pas vrai, mais ça pourrait être vrai. Et puis, ça montre aussi que l'art est susceptible de nous montrer un réel qui est en train d'advenir et de nous intéresser à ça, de nous intéresser à ce qui se passe. Il y a Edouard Ocak, par exemple, si nous parlons d'art contemporain, qui a fabriqué un lapin fluorescent. Et cette fluorescence, elle a été utilisée par des médecins pour suivre des traitements de chimiothérapie et mesurer leur efficacité. Donc il y a entre l'art contemporain, une partie de l'art contemporain, et puis la pensée, notamment la pensée transhumaniste, un passage. Oui, donc,
Bon, alors je vais lire un passage de votre livre qui permet de répondre à une question qui était récurrente, vous vous souvenez, dans les assemblées générales des années 70, d'où parles-tu, camarade,
hein? Oui.
Vous vous souvenez de cette phrase? Bon. Je vous lis, j'ai pour ma part choisi mon camp. Je ne peux me faire à l'idée d'un monde dans lequel torturer un chat soulève plus d'indignation sur le net que de tuer un enfant de 8 mois pour des raisons psychosociales, il faut dire de 8 mois in utero, de grossesse, de le broyer dans le ventre de sa mère avant d'en sortir la viande hachée avec un aspirateur. C'est probablement le premier geste de la civilisation à venir, selon les progressistes, mais ça sera toujours pour moi le retour de la barbarie. Et là, on revient justement aux années 70, sous les pavés, le sang, et non pas la plage. Voilà. Alors j'ai voulu lire ce texte qui est au milieu de votre livre, page 107, pratiquement juste comme on dit au mi-temps de votre ouvrage. C'est la fin de la toute fin de votre premier chapitre, parce que je voudrais vous poser une première question, puisque vous ne pouvez vous faire à l'idée d'un tel monde, c'est ce que vous dites, je ne peux me résoudre, et dans ce monde qui est le nôtre, est-ce que vous diriez que vous vivez dans un enfer aujourd'hui?
Non, parce que je pense que bon, j'ai connu auprès de moi le cancer en phase terminale, l'idée que la mort était toute proche dans les semaines qui suivaient, etc. Et j'ai le sens de ce qu'est l'enfer véritable, ou des maladies qui sont mortelles à brève échéance. Donc, bon, et il en va de même pour la civilisation. Notre civilisation est mortelle elle est mourante, elle peut mourir d'ailleurs dans d'autres brèves échéances. On voit ce qui se passe avec le Hamas en Israël, bande de Gaza, etc. Enfin, il se joue là un avenir de civilisation, mais j'ai une espèce de position tragique. C'est-à-dire ni optimiste ni pessimiste. Je ne suis pas un pessimiste qui verrait le pire partout, un optimiste qui verrait le meilleur partout, mais un tragique qui tâche de voir le réel tel qu'il est. C'est ainsi. Je dirais, j'ai mon âge. J'ai 64 ans, bientôt 65. Et quand on a ce recul sur l'histoire, sur soi-même et sur l'histoire, on peut penser ce qu'on ne peut pas penser quand on a trois fois moins d'âge. C'est-à-dire, quand on a 20 ans, on pense que les vieux sont cons, qu'ils n'ont rien fait, que c'est de leur faute. Si le monde est comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas essayé, ils n'ont pas été assez volontaires, déterminés, etc., etc. Donc, on va tout changer, on va changer la vie, etc. Et puis après, on se dit, bon, ben voilà, on a pensé ça quand on avait 20 ans, on a deux fois 20 ans, trois fois 20 ans. Et puis on se dit, mais non, il y a un réel qui résiste quand même. Il y a la nature humaine, il y a une espèce de puissance de la civilisation, une espèce de train qui avance et qui va à sa vitesse et qui se moque du fait qu'il y ait, je sais pas quoi, un sanglier sur la voie et qui fonce et qui tue et qui détruit et qui avance, etc. Et de fait, moi, j'ai lu Les Misérables, qui est un chef-d'œuvre pour moi, mais il y a un moment donné où tout le monde connaît l'histoire entre Fantine, Cosette et Thénardier, quoi. Et la gauche, la biographie de Victor Hugo a été compliquée, mais disons, il est resté pour une espèce de républicain de gauche. Et à l'époque, Fantine et Cosette, le couple, on est du côté de Cosette quand on est de gauche, quoi. On se dit, mais cette petite fille qui a été abandonnée parce que sa mère ne pouvait pas s'en occuper,
et sa maman qui doit se prostituer,
exploitée par les Thénardier qui lui disaient, elle est malade, il nous faut de l'argent. Elle n'est pas malade, mais en fait, les Thénardier récupèrent de l'argent et elle est obligée à un moment donné de vendre ses cheveux, de vendre ses deux dents de devant, les palettes, comme dit Victor Hugo. Et à l'époque, évidemment, la gauche est contre les Thénardier et elle est pour Cosette. Enfin, Victor Hugo dit, mais enfin, c'est Misérable. On prend la défense de Misérable. Et là, inversion des valeurs, la gauche est du côté des Thénardier et dit, en gros, mais madame, vous n'avez pas d'argent, louez votre utérus. Mais madame, vous êtes une pauvresse, portez l'enfant d'un autre.
Vous dites même qu'en Ukraine, une clinique a fait du discount en faisant une réduction.
Voilà, deux enfants pour le prix d'un, presque. Avant qu'il n'arrive ce qu'il arrive à l'Ukraine, c'était effectivement l'endroit où on vendait le plus d'enfants au monde, où on fabriquait le plus d'enfants au monde. Vous venez, vous avez de l'argent, vous avez 30 000, 40 000, 50 000 euros à mettre.
On va revenir là-dessus parce que c'est saisissant,
ce que
vous nous décrivez.
Oui.
Donc, dans votre introduction, puisque le livre s'appelle « Le fétiche et la marchandise », vous posez deux questions auxquelles vous apportez deux réponses. Et je voudrais que vous expliquiez, c'est très court, qui crée de la valeur, c'est la question que vous posez. Réponse, les travailleurs, c'est ce que la réponse que vous apportez. Qui crée le fétichisme de la marchandise, réponse, le capitalisme aidé par les travailleurs abusés. Alors on connaît bien le binôme, le fétiche et la marchandise chez Marx, là on va pas revenir à cela. Ces deux réponses, expliquez-nous les pédagogiquement, les travailleurs d'un côté, le capitalisme aidé par les travailleurs abusés de l'autre.
Oui, c'est-à-dire que la valeur suppose la créance, la croyance.
C'est la même chose.
Ben absolument. Étymologiquement, c'est ce que j'allais vous dire. Fiduciaire et foi, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire, vous voulez m'acheter quelque chose, je vous dis je vous le vends, vous me donnez un billet, je mets le billet dans ma poche.
Vous racontez l'histoire du billet qui circule.
Ça.
C'est passionnant.
Oui. Et moi, avec ce billet, je vais aller dans un magasin où je vais acheter une baguette de pain et puis voilà. Simplement parce que tout le monde croit que, et heureusement, que la valeur est susceptible d'être signifiée par une monnaie dans laquelle nous avons crédit. C'est-à-dire, si vous avez crédit dans des jolis coquillages, à l'époque de la préhistoire, eh bien, ils vont valoir quelque chose. Mais simplement, si ces coquillages valent quelque chose dans la préhistoire, c'est qu'ils sont rares. S'il suffit de vous baisser pour ramasser des graviers, évidemment, ça ne va pas le faire. Si en revanche, vous avez trouvé un joli coquillage, donc rare, s'il est rare, il a de la valeur. Ou c'est même chez les artistes, par exemple, cette idée que vous avez un artiste qui a une valeur, puis d'un seul coup, on découvre qu'il a laissé 3000 toiles totalement inconnues. Oui. Et là, la valeur s'effondre totalement. On se dit, oh là là, 3000 toiles, demande, offre, etc. Donc, ça valait tant, tel auteur, mais on ne savait pas qu'il y en avait tant d'œuvres. S'il y a tant d'œuvres, alors c'est plus du tout la même valeur.
On disait, par exemple, qu'il suffisait que Picasso signe un billet de 500 francs pour que le billet...
Mais c'est ça.
Il y a une valeur qui était...
Mais vous avez raison d'en renvoyer à Picasso. Il y a un moment donné, il griffonnait sur une nappe en papier. Il fait un dessin comme ça. Et puis, il y a le patron du restaurant qui dit, oh, formidable, est-ce que je peux le garder? Il dit oui, bien sûr. Il déchire, il donne ça au patron. Le patron dit, voudriez pas mettre une petite signature? Et Picasso lui répond, non, j'achète le repas, j'achète pas le restaurant. Et donc, il y a cette façon de dire, effectivement, que vous créez de la valeur, mais que si vous décréez, si vous me permettez le néologisme, si vous décréez la valeur, il n'y a plus de valeur. C'est-à-dire, si vous dites, vous avez vu ce beau tableau de Picasso, formidable, je l'estime, hein, je sais pas, 2 millions d'euros. Puis on vous dit, ah oui, mais c'est un faux. Ben, il vaut plus rien. Et pourtant, vous y avez cru. Quand vous y aviez cru, il valait ça. Quand vous n'y croyez plus, il ne vaut plus ça. Donc je pense que la valeur aujourd'hui suppose une créance. Et cette idée qu'un enfant n'est pas qu'un amas d'atomes, n'est pas que de la chair, mais que c'est plus que l'enfant, alors là, à ce moment-là, effectivement, vous dites, oui, la valeur d'un enfant, elle est où? Et vous avez des gens qui vous disent, non, pas du tout, il n'y a pas de valeur, c'est juste un assemblage de matière, ça se vend, ça se jette, ça se détruit, on l'avorte, on le vend, on le donne, on le loue, on le prête, on le, etc. Éventuellement, on l'abuse sexuellement. C'est aussi souvent les gens qui défendent un peu le...
Revenez sur toute l'histoire de la pédophilie.
C'est un peu les mêmes. C'est-à-dire que cette gauche faussement éclairée des années 70, qui estimait qu'on pouvait sodomiser des petits-enfants, des petits garçons, des petites filles, et qui, Gabriel Matzneff, écrivait un livre qui s'appelait Les moins de 16 ans pour justifier la sexualité avec des moins de 16 ans. On vient de découvrir avec une plainte récente qu'il y avait aussi des enfants de 4 ans, semble-t-il, prostitués par leurs propres parents. Tout ça était dans un milieu de gauche, bien sûr. Eh bien, ce sont exactement les mêmes aujourd'hui. Alors, ils se calment, les pédophiles, ils peuvent plus. C'est quand même devenu, les gens ont quand même compris. Encore que, j'ai Cohn-Bendit qui a écrit dans Le Grand Bazar qu'il l'avait été, il l'a dit chez Pivot, sur le plateau d'Apostrophe, peut toujours aujourd'hui débattre de la vie telle qu'elle va sur CNews, il y a aucun problème, sur LCI, pardon, sans aucun problème. Sauf que ce sont ces gens qui défendaient la pédophilie dans les années 70-80 qui aujourd'hui défendent la possibilité d'acheter, de vendre des enfants. Et je dis, mais non, c'est pas de gauche ça. Il y a une espèce d'inversion des valeurs parce que s'il y a fétiche et marchandise, la marchandisation, c'était jadis le capital qui le décide. Si maintenant le capital est du côté de la gauche, ça veut dire que soit la gauche n'est plus de gauche, et à ce moment-là, il y a une espèce d'abus, soit à ce moment-là, il faut que la gauche dise ce qu'elle est.
Mais
à ce moment-là,
on va voir que au centre de tout cela, il y a ce qu'on pourrait appeler, pardon, là aussi pour le néologisme, la chosisation, en fait, c'est la réification, hein, et ça, c'est ce que vous écrivez, page 14. La seule rareté confère la valeur, c'est ce que vous venez de dire. Trouverait-on un moyen de cultiver la truffe de manière intensive, que son prix chuterait au niveau de celui du champignon de Paris? En régime communiste, soviétique ou en Chine aujourd'hui, le champignon de culture est consommé par le peuple, les truffes par ceux qui, au nom du peuple, exploitent le peuple. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette blague, il se trouve que mon épouse est polonaise. Sous l'ancien régime communiste, il y avait une blague qui disait « Dans une démocratie populaire, le champagne est la boisson de la classe ouvrière, bu par la bouche de ses représentants.
» Excellent.
C'est exactement, ben, c'est ça. Exactement ce que vous dites. Alors, vous dites, il faut réifier, c'est-à-dire transformer les choses, plus de choses qu'il n'y a de choses. Alors, expliquez-nous ça aussi.
Oui, c'est-à-dire que vous dites, on a ici un micro, on a ici une table, on a ici une montre, on a ici un pull, et on dit, bon, ça, ce sont des choses, il n'y a aucun problème, donc on peut multiplier les choses. Mais il y a un moment donné où vous dites, mais est-ce que mon cœur est une chose? Enfin, mon cœur, pas mon organe. Mes lunettes, c'est une chose, mais est-ce que mes pupilles, ce sont des choses? Et si vous réifiez la totalité du corps, alors il n'y a aucun problème, vous pouvez vendre vos organes. Il y a actuellement un nouveau président, enfin quelqu'un qui vient d'être élu pour devenir président en Argentine, qui est un ultra-libéral, qui est un libertarien.
Milei.
Oui, qui lui vient de dire, vendez vos organes. Si vous avez deux reins, vous pouvez très bien vivre avec juste un rein, alors vendez votre rein. Et puis voilà. Et donc l'idée que des gens puissent aujourd'hui nous faire savoir qu'on peut faire commerce de son propre corps, c'est juste dire à des femmes, mais prostituez-vous, mesdames. Très jolie, mademoiselle. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de métier, mais prostituez-vous. Voilà, vous allez louer votre corps, c'est tout de même pas un problème. Donc il y a 10 personnes qui vont vous passer dessus dans la journée, et vous aurez de l'argent en fin de journée. Et c'est quoi le problème? Il est où? C'est ce que jadis Pierre Berger disait, grand personnage de gauche s'il en est, qui disait à un moment donné, mais enfin quoi, les caissières dans un supermarché, elles louent leur force de travail, et elles sont assises devant une caisse, et puis la caisse enregistreuse, elle travaille, donc elle prostitue leur corps, si vous voulez. C'est pas un problème de prostituer son corps si je porte l'enfant d'un autre, ou j'ai vendu mes ovules, ou je vends mon spermatozoïde pour vendre mon sperme pour vendre des spermatozoïdes. Donc il y a un moment donné où cette réification du corps, elle suppose que vous pouvez tout vendre. Donc les organes, le sang, le plasma, la cornée, enfin tout. Après, vous avez éventuellement, on peut imaginer que votre cadavre, une fois que vous êtes mort, votre cadavre appartiendrait aux héritiers. Et les héritiers pourraient très bien dire, eh bien voilà, on va vendre le cerveau de Michel Onfray, sa cornée, enfin je déconseille qu'on achète mon cœur, il n'est pas en excellent état, mais d'autres organes en disant, voilà, c'est la valeur. Et je me dis, mais en temps normal, c'était la gauche qui réagissait à ça, qui s'opposait.
De Fantine et de Cosette.
Voilà, qui s'opposait à la marchandisation. Et maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est la droite un peu catholique, un peu, un peu conservatrice, qui descend dans la rue en disant, enfin non, quoi, enfin, c'est pas possible qu'on puisse faire des choses comme ça. Alors effectivement, moi je persiste à être un homme de gauche, mais je pense que mes amis sont à droite sur des sujets comme cela, en disant, mais c'est plus un problème d'être de droite et de gauche. Le problème, c'est de savoir les valeurs que vous défendez. Vous défendez cette idée que la personne d'un enfant est sacrée, pas seulement dans le ventre de sa mère, mais dans le ventre de sa mère, puis dans la vie, puis etc., etc. Vous défendez l'idée qu'une personne est sacrée, ben là, je suis avec vous. Après, je me moque de savoir si vous êtes de droite, de gauche, catholique ou athée, ou c'est plus du tout le problème.
Alors, il y a un auteur auquel vous faites abondamment référence dans tout le premier chapitre, c'est un Américain, Aldous Huxley, auteur donc du meilleur des mondes. Hein, vous dites d'ailleurs aujourd'hui, la gauche est le porteur d'eau des administrateurs de l'État totalitaire du meilleur des mondes. Hein. Ce livre, il est écrit en 1932, il est suivi, j'allais dire, d'un ouvrage qui s'appelle « Le retour du meilleur des mondes » en 1958, pas très longtemps avant sa mort, hein, il est mort en 1963. Il se trouve que, puisque nous sommes à Bordeaux, à la librairie Mola, faut savoir que Aldous Huxley a été celui qui a traduit aux États-Unis, favorisé la traduction en anglais de la technique ou l'enjeu du siècle de Jacques Ellul. Hein. Livre écrit en 54 par Ellul, et Aldous Huxley, c'est ce qui faisait qu'Ellul était d'ailleurs très connu aux États-Unis. Ce qui c'est ce personnage, Aldous Huxley, parlez-nous de lui. Il est de gauche, il a un frère qui s'appelle Julian, dont vous parlez, qui a été le premier directeur de l'UNESCO, qui est l'inventeur du mot transhumanisme. Huxley, c'est qui? Parce que le meilleur des mondes, vous en parlez longuement.
Écoutez, moi j'ai lu ce livre au collège. je sais pas, enfin, je suis rentré, j'avais 10 ans, je suis sorti 14 ans, entre 10 et 14, je dirais 12, 13, quelque chose comme ça, 12, 13 ans. Et à l'époque, j'apprends le mot ectogénèse. Et l'ectogénèse, c'est la possibilité de fabriquer des enfants dans des couveuses, quoi, si vous voulez,
dans des bocaux.
Dans des bocaux, voilà.
Ah, oui.
Et donc, c'est de la fiction. On est dans la science-fiction. Donc, on fabrique des individus, on les produit, et puis etc. Or, il existe actuellement, alors nous parlons en Chine, de l'ectogénèse. On fabrique des enfants dans des couveuses, mettons ça entre guillemets, ou les bocaux, comme vous dites, pilotés par intelligence artificielle. Ça se fait, c'est-à-dire que quand j'étais adolescent, et que je disais ça, c'était de la science-fiction pure, c'est devenu la réalité.
Des années 60
Oui, c'est ça. Début 70, oui, c'est ça. Oui, oui. Et je me suis dit, mais c'est quand même pas possible, quoi. Alors ça veut dire que ce qui se passe entre la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, ça fabrique l'œuf et ça donne un petit garçon, une petite fille, jusqu'à l'âge de 9, jusqu'à 9 mois de vie intra-utérine, puis une naissance. Mais on est dans le ventre de la mère. Donc il y a des informations, les informations hormonales, les informations des substances.
Des goûts, des sons.
On sait très bien que si la mère de famille fume ou boit, c'est problématique pour l'enfant, c'est dangereux, c'est même très dangereux pour l'enfant. Si elle prend des drogues ou si elle prend des médicaments, etc. Boris Cyrulnik nous fait savoir que les mères de famille qui mangent de l'aïoli à Marseille, elles vont faire de telle sorte que l'enfant aura un goût particulier pour l'aïoli, ce qui ne sera pas le cas d'un enfant normand comme moi à qui on aura fait manger, je ne sais pas,
du beurre,
à qui la mère
aura mangé et des pommes.
Du beurre et des pommes et des escalopes normandes et donc à la crème. Et donc il y a ça qui est effectivement à montrer, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des vies intra-utérines. Et là on vous dit, mais dans l'intelligence artificielle, ce sont des ordinateurs qui piloteront ces choses-là. C'est-à-dire que évidemment il y aura pas de mère qui fumera, qui boira, qui je sais pas quoi, qui non plus posera sa main sur le ventre, qui non plus ne fera pas écouter
ou accessoirement un papa ou une autre maman.
J'allais bien sûr y arriver, hein, en disant écouter de la musique, ou le père qui arrive et qui met la main sur le ventre de la maman et qui parle à l'enfant, ou un petit frère et une petite sœur qui vont lui parler aussi, etc. C'est-à-dire que le monde extérieur arrive dans le monde intérieur de l'enfant. Et cet enfant, il est nourri par ça. Il y a un développement du système neuronal, il y a un développement de la vie qui s'en va vers plus de vie encore. Et cette vie-là, elle est informée par ce qu'on lui donne de l'extérieur. Mais là, ce sera l'intelligence artificielle. Or, l'intelligence artificielle, elle est pilotée par une intelligence humaine. Donc, qu'est-ce qu'on envoie ? Uniquement des substances. On ne va pas envoyer de l'affection. Il n'y a pas une seringue qui permettrait de dire « affection de la mère pour l'enfant ». Ou parole du père pour l'enfant, ou caresse du petit frère pour l'enfant, etc. Ça n'a pas lieu. Donc on réduit l'individu à de l'atome, et le matérialiste que je suis trouve déplorable que ce matérialisme soit aussi sommaire et aussi court, en imaginant que l'amour, par exemple, ça serait réductible à une formule chimique. Non, l'amour n'est pas réductible à une formule chimique. L'amour, c'est de voir la personne qu'on aime qui arrive et on se dit, elle est là, je suis avec elle, je la retrouve, c'est mon épouse, c'est ma petite-fille, c'est mon petit-fils, je suis heureux. Mais il n'y a pas de formule chimique pour ça. n'y a pas de formule chimique qui permettrait de dire, allez, un petit coup de formule chimique qui permettrait de dire à cet enfant, vous avez une petite émotion parce que vous allez entendre la voix de votre petit frère ou la voix de votre petite sœur à l'intérieur du ventre maternel. Donc je me dis, mais là, on est dans l'inhumanité au sens étymologique, c'est-à-dire que quand Huxley dit ça, il le dénonce. Et vous faites bien de rappeler ce petit texte qu'il écrit ensuite, où il dit « Oh là là, mais moi, je fais de la fiction, mais je suis débordé, dépassé par ce qui advient. J'étais loin d'imaginer que ça arriverait aussi vite. »
Vous dites même que lui et Orwell, vous savez qu'Orwell était son élève, hein,
oui.
quand il était à Eton. Hein, vous dites que lui et Orwell, ont, avec leurs œuvres de fiction, ils ont disqualifié, selon vous, toute la pensée politique de la République de Platon à la critique de la pensée politique de Sartre. Sauf une œuvre, dites-vous, c'est la servitude volontaire de la Boétie. Voilà. Alors, je vous laisse continuer parce que c'est important, parce qu'on voit bien que Huxley lui-même est quelque part effaré par la dystopie qu'il écrit.
Oui, parce que il n'y a pas chez Orwell de fiction. 1984, en gros, c'est un mélange de nazisme, un mélange de stalinisme, de fascisme mussolinien, et avec deux ou trois petites fictions, c'est-à-dire plus l'électricité, on dira. C'est et donc, on a...
Le soviet, c'est déjà fait, il reste l'électricité.
Oui. Et donc, vous avez la télévision, l'œil qui vous regarde, Big Brother, etc. Bon, il invente un peu la société de contrôle. Et encore que, on est déjà... La caméra, ça existe déjà. L'appareil photo, ça existe déjà. L'œil qui vous regarde ou qui vous voit, etc. Mais enfin... C'est très réel, ce que fait Orwell. Huxley, c'est de la fiction à l'état pur. Cette idée de dire, vous allez conditionner des enfants pour fabriquer, par exemple, des individus qui pourront vivre dans une station spatiale la tête en bas. Il dit, mais il va falloir absolument qu'on prépare physiologiquement, physiquement, d'un point de vue anatomique, ces individus, et on va faire ceci, on va faire cela, etc. C'est presque drôle. Quand il dit, on va mettre des petits enfants à quatre pattes dans un espace, et puis on va mettre des fleurs, puis on va mettre des livres, et puis on va faire des sirènes hurlantes, des trucs hyper traumatisants, et les enfants, ils associeront le livre, les fleurs, au trauma, donc ils n'aimeront ni la lecture, ni les livres, ni la nature. Eh ben, c'est pas si faux que ça. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui, moi je suis toujours effaré quand je regarde des publicités où, par exemple, on vous vend une voiture hybride. Elle est formidable, la voiture, le personnage y est sympathique, la femme à côté est formidable, la voiture très bien, ça traverse des paysages incroyables, etc. En fait, on vous vend pas une voiture, on vend l'hybridité. Et la plupart du temps, on vous dit, mais vous êtes un homme, pas si sûr, peut-être êtes-vous une femme. Vous êtes un blanc, pas si sûr, peut-être êtes-vous un noir. Vous êtes un adulte, pas si sûr, peut-être êtes-vous un enfant, etc. Et l'hybridité, c'est de dire, vous êtes ce que vous voulez être. Je suis noir, non, j'ai décidé d'être blanc. Souvent, c'est l'inverse. Je suis blanc, j'ai décidé d'être noir. Vous êtes homme, vous avez décidé d'être femme. Vous êtes femme, vous avez décidé d'être homme. Vous êtes un enfant, vous avez décidé d'être un adulte. Vous êtes un adulte, vous avez décidé d'être un enfant. L'hybridité, c'est ça.
C'est le produit de la déconstruction.
C'est la déconstruction totale. Et on a toujours, à un moment donné, où le crétin dans la publicité, c'est l'homme blanc. Ou la personne intelligente, c'est la petite fille qui vous fait remarquer que vous polluez la planète en laissant le robinet ouvert. Où c'est le crétin, c'est le blanc, un peu abruti, dans sa campagne, pendant que le type intelligent, malin, etc., c'est le créole qui va arriver, qui lui va ceci. C'est-à-dire, à chaque fois, on vous dit, ne croyez pas qu'on vous vende une voiture, on vous vend la notion d'hybridité, qui elle-même suppose qu'on va vous vendre l'idée d'un monde meilleur, d'un monde nouveau. En fait, toutes les publicités nous vendent le meilleur des mondes. Et quel que soit le projet, accessoirement, vous achetez une voiture, accessoirement, vous achetez un produit, accessoirement, vous allez décider d'une application à ajouter sur votre téléphone portable, accessoirement, vous allez acheter un type de nourriture, je ne sais quoi. Mais à chaque fois, le message qui vous est donné, c'est l'hybridation, donc la déconstruction, donc cette idée que notre avenir, c'est finalement le meilleur des mondes d'Aldous Huxley.
Alors c'est pour ça que vous écrivez page 34, qu'il a des intuitions qui sont révélées complètement justes avec le temps. Je vous cite là encore, vous dites, il écrit « L'Amérique est l'image prophétique de ce que sera le reste du monde urbano-industriel dans quelques années », ajoutant « Gavé de consommation, les jeunes n'auront que faire de la démocratie ». Donc on voit là encore que vous prenez l'exemple de l'inculcation en quelque sorte de normes à ces jeunes enfants, on ose dire in utero ou ex utero, ça va même jusqu'à remettre en cause l'essence même du politique dans nos sociétés. C'est-à-dire, finalement, la démocratie, bah, c'est accessoire. Hein.
Mais absolument, parce qu'il y a un moment donné où qu'est-ce que ça veut dire être citoyen aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire être bon père de famille, comme on disait jadis, ou mère de famille ? Qu'est-ce que ça veut dire être un citoyen républicain qui, etc. Ça ne veut plus rien dire. Puisqu'on a atomisé tout ça et qu'on vous dit, mais vous n'êtes qu'une subjectivité pure, soyez ce que vous voulez être, et même si vous voulez être le contraire de ce que vous voulez être, et le contraire du contraire de ce que vous voulez être, changez quand vous voulez, c'est d'une plasticité totale, d'où la notion d'hybridité. C'est-à-dire qu'arrêtez de croire que né homme, d'ailleurs ça n'existe pas, on ne naît pas homme, mais on le devient, selon la formule hélas célèbre de Simone de Beauvoir, qui a quand même dit tout à fait autre chose que ce qu'on lui fait dire. Quand elle dit on ne naît pas...
Des femmes.
Oui, elle dit on ne naît pas femme, on le devient, mais...
Mais c'est vrai qu'il y a une réinterprétation de cette formule qui
c'est ça. Si on ne naît pas enfant, on le devient. On ne naît pas adulte, on le devient. C'est-à-dire que si vous êtes un enfant et que vous voulez devenir un adulte, vous êtes un adulte. Si vous êtes un adulte et que vous voulez devenir un enfant, vous le devenez aussi. Il y a des perversions sexuelles qui consistent chez certains adultes à se faire langer, talquer les fesses, à ouigner, à sucer des tétines, etc. Donc ça fait partie des fantasmes chez certains. C'est pas le mien. Mais l'idée que chez certains, ça puisse se réaliser autrement que sur le terrain sexuel, mais dans la vie... Si on a ce qu'on appelle ça des adolescents, des gens qui sont des adultes mais qui se comportent comme des adolescents, qui s'habillent comme tels, qui se font tatouer, qui ont des trucs là, qui roulent en trottinette, qui ont des culottes à manches courtes et qui veulent absolument pas de, ils ont des enfants mais ils sont copains avec leurs enfants, leur femme c'est une pote, etc. Enfin bon, évidemment toutes ces choses là s'effondrent et on dit mais vous ne pouvez pas vouloir maintenir le patriarcat, la misogynie, la phallocratie. Si c'est ça, vous êtes un fasciste, vous êtes un nazi, vous êtes un descendant d'Adolf Hitler. Donc tout devient vraiment terreur. Et il y a plein de gens qui, n'ayant pas l'esprit critique, la possibilité de concevoir que c'est la nouvelle idéologie terroriste du moment ou totalitaire du moment, qui finalement y consentent parce que, bon, l'imprégnation, quoi. Vous êtes en train de... Vous êtes fatigué, vous avez fait votre journée, vous regardez la pub, paf, vous y avez droit. Vous regardez une série sur Netflix, paf, vous y avez droit. Vous regardez un film fait sur le service public, paf, vous y avez droit également. Vous y avez droit. Vous allez écouter une émission de débat, prétendument, et hop, vous y allez avoir droit en même temps, parce que les gens qu'on va avoir invités vont défendre ça. Et puis, à un moment donné, les gens qui ne seront pas là, on les agressera en disant certains nazis, certains fascistes disent que, etc. Et puis, on reprend les mêmes noms, les Finkielkraut, les Onfray ou je ne sais quoi. Et donc, l'idéologie totale avance comme ça, doucement, et on se dit, mais finalement, autant 1984 d'Orwell, c'était une idéologie totalitaire avec des gens qui étaient casqués, armés, bottés, des espions, la terreur, etc. Autant chez Huxley, c'est un totalitarisme parfumé.
Vous l'appelez le totalitarisme courtois.
Courtois, mais c'est lui qui utilise cette formule. Oui. Totalitarisme courtois. Ce qui est formidable, parce que c'est une façon de dire...
Ça fait penser à l'amour courtois.
Oui, c'est ça. Et il dit à un moment donné, mais quand vous n'allez pas bien, une petite substance qui va vous arranger tout ça, et puis voilà quoi. Et ben aujourd'hui, il y a tellement de gens alcooliques, il y a tellement de gens qui sont
addicts aux opiacés qu'aux États-Unis.
Les drogues, enfin, je veux dire, tous ces gens qui, même des gamins qui sniffent des doses là qui permettent de faire de la crème chantilly, enfin, je ne sais plus quel gaz toxique, et le fameux gaz hilarant, ils absorbent ces choses-là. Enfin, ça détruit le cerveau. On sait très bien qu'il y a un certain nombre de jeunes qui fument beaucoup de drogues qui passent pour des drogues ludiques, hédonistes, etc., déclenchent des schizophrénies et ont une vie ravagée pour avoir fumé abondamment des pétards quand ils étaient adolescents. On dit rien de tout ça. Et on dit rien d'un alcoolisme un peu généralisé, de gens qui disent, allez hop, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères, des gens qui prennent des cachets pour se doper dans la journée, prennent des cachets pour dormir, prennent des cachets pour calmer leur angoisse. Alors vous ajoutez l'alcool, vous ajoutez les pétards, et on se dit, plus les gens qui s'abrutissent à la télévision en regardant des sottises, qui passent 3, 4, 5 heures par jour devant un écran, ce qui est un autre type de drogue aussi. C'est échapper à soi-même, la drogue, là, pour le coup. Et Huxley dit, cette société coule un peu, ce totalitarisme courtois, il passera par ça, une espèce d'intoxication light.
Ça rejoint ce que Raphaël et Simonet avaient écrit quand il avait parlé du monstre doux. C'était une critique de la société italienne sous Berlusconi, avec l'infotainment en permanence et cette capacité à amuser, en quelque sorte, le chaland. Voilà.
Du pain et des jeux, on y est toujours, quoi, à l'époque de Juvénal ou de Perse ou des satiristes romains, on a des gens qui, en gros, veulent les jeux qu'il y a à la télévision, là, des roues de la fortune ou des karaokés ou avec, je sais pas quoi, les naguis et autres, qui sont des occasions de prétendument de détendre les gens, mais en fait, ça rime à quoi de faire ce genre d'émission? Et donc, on est construit sur cette idée que le spectacle ferait la loi.
Et Patrick Lelay disait que ça dégageait du temps de cerveau disponible,
oui,
de toute façon.
ben lui, au moins, il disait clairement ce que d'autres ne disent pas clairement. Et de fait, la télévision, c'est souvent fait pour ça, c'est souvent fait pour les annonceurs. D'ailleurs, si vous voulez des annonceurs, il faut faire du clash. Si vous voulez faire du clash, vous faites plus d'informations. Donc, il faut faire de la grossièreté, de la vulgarité, de la bêtise, de l'agressivité. Il faut pousser les gens dans leur dernier retranchement pour qu'ils puissent vous répondre la phrase qui va faire le buzz sur les réseaux sociaux et qui permettront aux gens de regarder à nouveau. Et alors, évidemment, avant, il y aura de la pub, après, il y aura de la pub. Donc, vous allez pouvoir augmenter vos tarifs de pub, et puis, etc., etc. On sait que ça fonctionne comme ça. Que hélas, il n'y a plus de contenu qui fasse l'affaire. C'est la question des nombres de vues, de ce que
exactement,
ça fait comme audience.
Du nombre de likes, comme on dit. Alors, vous montrez bien aussi, d'ailleurs, que tout cela est quand même très violent. On vous retrouve dans votre capacité pardon pour employer un terme, justement, dans cette société des médias, qui est donc celui de la punchline, comme on dit. Vous faites un parallèle entre ce qui se passe dans ce que vous appelez les micro-sociétés trifonctionnelles des banlieues et ce qui se pratique dans les hautes sphères de la société. Ce qui est le point commun, c'est la violence. Sauf que c'est pas la même. Vous dites, du premier côté, dites-vous, la vulgarité et la grossièreté sur un morceau de rap primitif, et de l'autre, le cynisme entendu sur un air d'opéra. Bon, on voit bien, en quelque sorte, ces sociétés qui sont, d'une certaine manière, complètement l'une contre l'autre, hein, opposées en bloc, mais dont les ressorts sont relativement communs, d'une certaine façon.
Oui, c'est le libéralisme. C'est tenté que le libéralisme, c'est le marché qui fasse la loi. C'est ma définition. Oui. C'est une utopie, le libéralisme. On ne le dit pas assez, mais il n'y a pas le libéralisme qui dirait la vérité pendant que le socialisme serait une utopie. Ce sont deux utopies. Le libéralisme est une utopie du XVIIIe siècle, utopie positive et presque positiviste, qui consiste à dire qu'il y a une main invisible qui gère le tout. Laissez faire le marché. Laissez faire et laissez passer. Et il y a une main invisible qui va réguler tout ça. C'est une option de déistes, la plupart du temps, des déistes francs-maçons du XVIIIe siècle, qui pensent qu'il y a un ordre naturel et qu'en laissant faire les choses, le dieu de l'ordre des choses prendra la main et que finalement tout se passera bien. C'est aussi, alors tout ça, c'est Ricardo, c'est Smith, etc. C'est la fable des abeilles de Mandeville. Mandeville, il dit laissez faire les vices privés font les vertus publiques, en disant mais attendez, s'il y a plus de voleurs. Il n'y a plus de policiers pour arrêter les voleurs, il n'y a plus de juges pour juger les voleurs, il n'y a plus de prisonniers, il n'y a plus de gardiens de prison pour garder les prisonniers, il n'y a plus non plus de maçons pour fabriquer les prisons, il n'y a plus de gens qui vont fabriquer les barreaux, il n'y a plus de gens qui vont fabriquer les huisseries, donc vous allez mettre dans la faillite tous ces gens-là qui vont plus... Le luxe, c'est pas bien, ah là là, ces femmes qui se font faire des robes en soie, etc. D'accord, très bien, on arrête les robes en soie, mais alors les petites mains, les cousettes, les femmes qui fabriquent des robes, les gens qui fabriquent la soie, etc., vous allez les mettre dans la faillite. Et tout et tout. Et donc cette fable de Mandeville consiste à dire, mais non, faut accepter les vices. Finalement, ça fait partie du monde. Une société dans laquelle il n'y aurait plus de vices, ce serait une société qui ne fonctionnerait plus. Cette troisième idée, la main invisible, vertu privée, enfin vice privé, vertu publique.
Ça, c'est un film de Jiang So, hein, c'est un film remarquable dans les années 70, hein, vice privé, vertu publique.
Ouais. Ah oui, ah, oui. Moi, j'ignore ça. Oui. Ouais. Et puis cette idée du ruissellement, cette théorie du ruissellement. Les premiers de cordée, dit Macron. Ouais. C'est-à-dire, laissez faire les riches, la richesse des riches enrichira
comme
les
la
pauvres.
La fontaine de chocolat.
C'est ça. Et elle finira par enrichir les pauvres. Non, Marx a raison là-dessus. La richesse des riches va générer la paupérisation. C'est-à-dire des riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, et des pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. Donc, le libéralisme est une fiction. C'est ça qu'il faut dire en disant, mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il va falloir envisager les choses. Il y a la paupérisation, il y a de la misère. Les vices privés font des vices publics. Et puis, la théorie du ruissellement, ça n'existe pas. Et il n'y a pas de main invisible. Il n'y a pas d'ordre configuré par un dieu, par le dieu des déistes du XVIIIe siècle. Donc, c'est ce qu'il faut dire, mais c'est ce qu'on dit assez peu. Parce qu'aujourd'hui, une partie de la gauche est convaincue que le libéralisme dit la vérité, dit la loi du monde, la loi de ce qui est. Il y a une espèce de gauche qui s'est ralliée à ça. Il y a un moment donné où la gauche disait, mais non, il y a aussi dans la vie autre chose que la théorie libérale. Par exemple, l'entraide. C'est-à-dire que Darwin, au 19e siècle, 1859, l'origine des espèces, 1871, la filiation de l'homme, et Darwin dit à un moment donné, il y a la lutte des espèces, les plus adaptées tiennent le coup, les autres disparaissent, etc. Il y a un darwinisme social qui fait la pensée de droite du 19e siècle. Et on ne parle pas d'un darwinisme de gauche avec Kropotkin, par exemple, le prince Kropotkin, qui écrit un livre qui s'appelle L'entraide, et où il dit, mais il y a aussi l'entraide comme un facteur de développement de la société. Il n'y a pas que la lutte, il n'y a pas que les plus adaptés qui survivent, il y a aussi ceux qui se seront entraidés. C'est-à-dire des animaux qui éventuellement disent « Ah, celui-là, il a une jambe qui traîne, celui-là, il est souffreteux, celui-là, allez hop, on le prend en charge. » C'est-à-dire que si la société prend en charge les miséreux, les petits, les sans-grades, les oubliés, les gilets jaunes d'aujourd'hui ou d'hier, eh bien, c'est aussi un facteur d'évolution.
Elle ne s'en porte que mieux. Oui.
Et de fait, ça permet le progrès. Un progrès moral, politique, etc. On est loin de ça.
Alors, s'il y a un État dans le monde qui a été le promoteur et le diffuseur du libéralisme économique, hein, mais aussi de la pensée libérale au sens de libéralisme dans les mœurs, sont les États-Unis. Alors là, on retrouve votre plus fidèle adversaire, en tous les cas, les États-Unis, avec tout ce que ça signifie comme mode de vie. Et vous nous proposez d'ailleurs un retour sur l'histoire, page 114, avec une réinterprétation, une interprétation du débarquement du 6 juin 44, que le Normand que vous êtes, évidemment, connaît bien, parce que c'était aussi le théâtre de votre enfance. Expliquez-nous ce que vous désignez comme la vassalisation qui n'est plus militaire ou administrative, mais qui devient civilisationnelle. Vassalisation, bien sûr, de la France et de l'Europe aux États-Unis, qui sont donc, en quelque sorte, les moteurs de ce futur meilleur des mondes.
Oui, il y a une mythologie des États-Unis, écrite évidemment par les États-Unis. Je pense par exemple au jour le plus long, ce film
d'Arin Zanuck,
qui met en scène le débarquement. Le
livre de Cornelius Ryan.
Oui, avec John Wayne,
ouais,
qui pilote.
Il y a plein d'acteurs français, il y a même Bourville.
Mais c'est justement, j'allais y arriver. Et vous avez John Wayne d'un côté, qui est en train de piloter une Jeep. Il a un casque, mais le casque n'est pas fermé. On a autre chose à faire que quand on fait le débarquement, la cigarette, et puis alors la virilité, etc. Et puis ça pète de partout. Il y a des bombes, des avions, des trucs. Enfin, on se dit, les Américains, ils arrivent, et puis vraiment, ils nous libèrent. C'est formidable, quoi. Et il y a un Français là-dedans. Vous venez de prononcer son nom. Il arrive, c'est un abruti,
un Normand,
c'est un Normand, et c'est Bourville. Avec une bouteille, une espèce de mousseux tiède à faire partager aux Américains en disant bah, eh bien, boire un coup de mousseux, quoi. C'est on se dit bah, voilà la France, quoi, telle qu'elle est pensée chez les Américains. Alors, je veux bien que la France n'ait pas été très élégante, très ceci, très cela, etc. Je veux bien, mais il y a un moment donné où cette idée de dire vous avez le choix entre John Wayne dans une Jeep et Bourville avec un mousseux tiède, tout est dit un peu, quoi. Et donc, vous avez à la fin du film, vous avez un casque américain. On voit l'étoile renversée sur la plage, etc. Bon, il se fait que moi, mon père était né en 1921, qu'il était là au moment de la libération et qu'il était au milieu des combats, au point de jonction des Américains, des Alliés, enfin, je veux dire, les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Anglais. C'est pas le même capitalisme que les Américains.
Non.
Et vous avez bien fait de parler des Américains parce que chez les Anglais, il y a de la civilisation. Chez les Anglais, il y a de l'aristocratie. Chez les Anglais, il y a de l'histoire. Chez les Anglais, il y a le capitalisme, mais il y a un peu plus que ça. Chez les Américains, il n'y a que le capitalisme. Ce sont des sauvages. Il n'y a pas de sauvages en Angleterre. Ils ont inventé le dandysme, ils ont inventé l'élégance, ils ont inventé plein de choses. L'humour, un certain type d'humour. Vous connaissez de l'humour américain, par exemple ? Il n'y a pas d'humour américain. Et donc...
On pourrait en discuter longtemps, c'est, bon, bon, c'est une autre
discussion. C'est l'humour de France Inter. mais donc, mon père était ouvrier agricole, il a labouré avec des bœufs, puis il a labouré avec des chevaux.
Et après,
quand le 6 juin est arrivé, le débarquement, et les Américains ont dit, bon, il va falloir changer tout ça, quoi, on va passer à la modernité. Et un jour, on a dit à mon père, tu vas chercher un tracteur à la gare. Et donc, il est allé avec son cheval charti, chercher un tracteur qui était démonté en pièces, quoi, dans une caisse. Et puis, on lui a monté le tracteur, c'est-à-dire que le personnage qui lui ferait les chevaux, il s'est mis à monter les tracteurs. Et à ce moment-là, on a dit, tracteur, donc moteur, donc essence, pétrole, donc assujettissement, vassalisation, et donc il va falloir utiliser ces tracteurs-là dans les champs. Ça veut dire qu'il va falloir augmenter la productivité, ça veut dire qu'il va falloir utiliser de l'engrais.
Et vous ne le dites pas, mais c'est exactement les raisins de la colère de Steinbeck.
Bien sûr.
C'est ce que montre John Ford avec bien Henry sûr. Fonda qui doit s'en aller parce que la Dust Bowl a fait partir tous ces paysans
absolument.
De l'Oklahoma
vers la Californie. C'est-à-dire que les Américains, ils s'en moquent que les Juifs soient déportés et qu'il y ait des chambres à gaz en 40, en 41, ça ne les concerne pas du tout. Ils se disent, bah oui, alors quoi. Donc, y a un moment donné où ils commencent à être intéressés par la guerre parce qu'Adolf Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis. Alors à ce moment-là, les Américains, ça les intéresse. Là, ils se disent, maintenant, cette guerre est devenue la nôtre. Et Hitler travaillait à la bombe atomique, il avait des avions à réaction et il ne parvenait pas encore à coupler les avions à réaction et la bombe atomique avec un Werner von Braun qui travaillait là-dessus et qui permettra aux Américains par la suite d'aller sur la Lune avec la NASA. Et donc, il y a un moment donné où ils sont susceptibles de croiser au large des États-Unis les nazis avec des sous-marins et éventuellement d'envoyer des bombes sur New York, etc. Et là, les Américains disent, bon, cette guerre, il va nous la faire chez nous autant qu'on aille la faire chez lui. Donc, les Américains viennent la faire en Europe. Et plutôt que de dire, bon, cette guerre, on ne la laissera pas faire chez nous, mais on va la faire sur le territoire américain, il valait mieux, des gens comme Edward Bernays, par exemple, qui était cousin de Freud, et qui travaillait à la question de la propagande, pour dire, maintenant, propagande, c'est quoi ? La propagande, c'est que les Américains aiment tellement la liberté qu'ils n'en supportent plus, ils ne supportent plus que l'Europe soit aux mains de l'Allemagne, et qu'ils viennent nous défendre.
Comme des sauveurs suprêmes.
Sauveurs suprêmes.
Puisque vous dites, c'est le suzerain, mais le vrai nom, la vraie
Overlord.
Overlord, c'est sauveur.
Overlord, c'est ça. C'est-à-dire oui. Overlord, le nom de code du 6 juin, c'est suzerain, vassal, dominé, quoi. Il y a à l'époque un projet politique qu'on appelle la MOGOT, c'est AMGOT, oui. C'est l'administration militaire des territoires occupés.
C'est ce qui s'est fait en Italie.
Occupé, bien sûr. Mmh. Avec une monnaie.
Et déjà frappé.
Déjà frappé. Moi, mon père m'avait donné un billet, parce qu'il existait, je l'ai toujours chez moi, dans mon bureau, comme un memento mori. Et il y avait à Charlottesville, aux États-Unis, une université où les militaires travaillaient à l'occupation de la France en disant « on va recycler, nous allons, eux, recycler les pétinistes, car on est sûr que les pétinistes, eux, ne sont pas des communistes ». L'ennemi, c'était le communisme. Et donc, on va installer une administration en France qui va être une administration pétiniste avec les Américains. Et puis, on débarque pour ça.
C'est pour ça que, quelque part, bien sûr, il y avait la complaisance des États-Unis et de l'ambassadeur de Roosevelt qui était très proche sur Pétain. Puis après, sur Giraud, parce que c'était l'alternative
anti-De Gaulle.
Avec Darlan avant.
Bien sûr.
Puis finalement, il fallait bien faire avec De Gaulle parce que c'est De Gaulle qui a remporté le morceau.
Et voilà. Et c'est De Gaulle qui dit non. Vous êtes gentil, discours de Bayeux, plus la suite. C'est-à-dire, vous gardez votre monnaie, vous gardez vos administrateurs. Moi, j'ai mon personnel. À l'époque, les communistes avaient cessé d'être collabos. Ils l'ont été 2 ans pendant le pacte germano-soviétique. Donc, d'un seul coup, quand Barbarossa a lieu et que Hitler envahit l'Union soviétique, d'un seul coup, les communistes français deviennent résistants.
Il y avait quand même quelques communistes individuellement qui étaient déjà rentrés dans la résistance.
2 ou 3, mais le parti... toujours est-il que moi, je parle du parti communiste. On ne va pas faire la liste des gens qui individuellement...
Parce que si vous voulez... Duclos essayait de négocier la réparation de l'humanité.
Mais parce que si vous voulez qu'on fasse vraiment la liste des communistes qui ont résisté, ils étaient 9 fois sur 10 des Juifs. Et s'ils étaient juifs, ils avaient bien compris ce qui se passait. Donc, ils étaient plus juifs que communistes en se disant, oui, mais enfin, nous, on est concernés. Et donc,
ils avaient été dans les brigades internationales, comme Tillon, par exemple.
Oui, mais ils sont minoritaires. Donc, évidemment, après, le Parti communiste va en trouver 2 ou 3 comme ça, en disant, mais on a été résistants, regardez, machin, bidule, intel. Oui, d'accord. Sauf que, quand, à l'époque, des gens comme Paul Nizan... prennent une position opposée.
Un flic.
Comme par hasard, il se prend une balle dans le casque. Hein. On ne sait pas d'où elle vient, la balle, mais Paul Nizan a été tué. Comme ça. Il y a eu Politzer était juif, il était lucide, lui, effectivement. Mais je veux dire, il y a eu peu de gens qui ont été lucides sur le pacte germano-soviétique, sauf quelques juifs qui avaient compris.
Alors, vous avez prononcé le mot vassalisation. Cela aussi, c'est très intéressant. Page 123, vous écrivez que les États-Unis savent qu'il faut être gramscien et gagner la bataille idéologique avant de l'emporter sur le terrain économique et politique. Et vous dites, vous écrivez, cette bataille idéologique se mène, alors là c'est très intéressant, avec le concours des antispécistes, des végétariens, des véganes et autres flexitariens qui s'avèrent les idiots utiles du capitalisme mondial et à terme de l'État universel et de la civilisation totale. Alors, on décode, hein, Émeric Caron, Sandrine Rousseau, etc., etc. Expliquez-nous, vous qui êtes un grand philosophe, la notion d'idiot utile que l'on prête à tort à Lénine et qui, en fait, est de Marx et Engels à propos d'un Hongrois qui s'appelait Ben Kert, en réalité Kert Benny, qui était, pardon de le dire comme ça, bête comme ses pieds, d'ailleurs, Engels le traite d'âne, hein, et il dit, voyons, Engels, dans une lettre à Marx, en 1860, dit, voyons s'il peut nous servir à quelque chose. En gros, c'est imbécile. C'est ça, les notions d'idiot utile.
Oui.
Alors, expliquez-nous l'autre partie de la gauche, celle qui n'est pas libérale, pourquoi ce sont les idiots utiles?
Alors, vous avez une jeune fille de 14-15 ans qui, aujourd'hui, c'est peut-être un garçon, mais après, on va dire que je suis misogyne, donc disons un jeune garçon.
Un Yel, comme on dit.
Oui, un Yel, c'est mieux, un Yel. Un Yel qui a 13-14 ans et qui dit, mais moi, je ne veux pas manger de viande parce que vous faites souffrir les animaux. Voilà. Un animal qui est dans mon assiette, c'est un cadavre, enfin, on connaît l'argumentaire, et puis vous avez fait souffrir l'animal, et puis moi, je suis contre la souffrance animale, etc. Alors, j'ouvre une parenthèse, c'est-à-dire que quand il s'agit de la souffrance des Israéliens aujourd'hui, c'est ces mêmes gens qui estiment terrible de pouvoir mettre des cochons dans des stalles, ce sont des gens qui trouvent pas terrible qu'on puisse massacrer des juifs.
Pas terrible, qui veut dire, pardon, en français, parce qu'on pourrait se tromper, qui trouvent pas scandaleux.
Oui, voilà.
Pardon.
Raison. Oui,
pas non, terrible.
Pas terrible au sens pas terrorisant.
Je me permets de.
Vous avez raison. Oui. Vous avez raison. Il faut faire attention aux gens qui veulent nous faire dire le contraire de ce qu'on dit. Oui. Mais donc, parenthèse fermée, juste pour dire que des antispécistes qui sont très sensibles à la cause des animaux liminaires, comme on dit, c'est-à-dire des rats ou des punaises de lit, sont très insensibles aux juifs et qui ont été massacrés le 7 octobre. Donc, juste pour dire que le Yel, qui lui ne veut pas manger de viande pour des bonnes raisons, après tout, il ne veut pas de la souffrance animale. Bon, ben voilà. Et on lui dit, oui, mais enfin, le beefsteak, c'est quand même sympa, le lait, c'est quand même bien, le fromage, c'est quand même sympa, etc. On lui invente des trucs incroyables, on lui invente un steak végétal. C'est quand même un oxymore. C'est-à-dire un steak, c'est de la viande, c'est donc pas végétal. C'est quoi un steak végétal? C'est quoi du lait de coco? C'est-à-dire, vous prenez une noix de coco.
C'est pas un lait de communiste.
Hein. Non. Vous prenez une noix de coco, et puis vous obtenez du lait de coco, mais du lait, c'est normalement un produit animal. Et, etc., etc. Vous avez du faux gras, c'est-à-dire c'est un foie gras.
Vous dites que vous en avez mangé.
Oui. Je suis très empiriste, moi je veux voir à quoi ça ressemble. Et si éventuellement je goûte,
c'est
incroyable. Et donc on se dit, mais pourquoi appeler ça faux gras, c'est-à-dire en gros foie gras, puisqu'on est opposé à l'utilisation des animaux, donc on ne doit pas utiliser le lait, le fromage, la viande, le foie gras, mais on prend les mots, on les garde, puis on fait autre chose avec ça. Et puis on dit à ces jeunes, eh bien, mangez du steak végétal. Et puis à un moment donné, on dit, bah, c'est pas exactement la même chose que la viande. Mais on a trouvé un truc extraordinaire, on va cloner la viande. Et donc, vous prenez des cellules animales, vous les clonez en laboratoire, et ça fait une espèce de tumeur qui va vous donner du bifteck haché, quoi, l'équivalent d'un bifteck haché. C'est-à-dire une
cancéreux, vous dites.
Oui, c'est ça. On mange de la viande cancéreuse, quoi. Et là, on vous dit, eh ben, vous avez vu, cette viande, vous l'aimez, mais en même temps, elle est formidable, puisqu'elle n'a pas fait souffrir un animal. Elle ne procède pas d'une souffrance animale. Donc, vous qui êtes vegan, vous allez pouvoir manger de cette viande, puisque ce que vous ne mangez pas dans la viande, c'est la douleur. C'est ce que vous ne voulez pas dans la viande, c'est la douleur qui aura été nécessaire pour la produire. Plus l'idée du « il faut X milliers de litres d'eau pour fabriquer un kilo de viande », etc. Des choses très fantasmées. Parce que, évidemment, ce n'est pas de l'eau à proprement parler, c'est aussi de l'herbe dans laquelle il y a de l'eau, etc. Enfin bon, c'est très fantasmé, cette idée du litre d'eau, comme si c'était une espèce de grande bassine avec des milliers de... Non, c'est aussi les plantes, c'est aussi l'herbe dans laquelle il se trouve de l'eau, etc. Et par définition, l'herbe, ce n'est pas que de l'eau. Donc, mais cette idée de dire, décorréler la viande de la nature, industrialisez-la, artificialisez-la, instrumentalisez-la, et vous aurez fabriqué un bifteck, il sera dans votre assiette, il sera vertueux. Ce sera une viande vertueuse, puisqu'elle n'aura pas fait souffrir un animal. Sauf que derrière tout ça, ces anticapitalistes vont permettre à ceux qui industrialisent l'agriculture et l'alimentation de faire fortune.
C'est pour ça que... qui sont donc des idiots utiles.
C'est pour ça que, par exemple, le patron, l'un des maîtres à penser du journal Libération, investit dans la viande cellulaire. On se dit, tiens, c'est étonnant, ils font en faveur des véganes, et en même temps, les véganes, ils sont en train de donner de l'argent à des gens qui, eux, fabriquent des steaks végétaux qui étaient... Enfin, chercher un peu l'erreur, quoi. Cette idée qu'on n'aurait plus besoin de paysans. On n'aura plus besoin de paysannerie, on n'aura plus besoin d'agriculture, on n'aura plus besoin de la terre, parce que la terre c'est fasciste, parce que le paysan c'est un rural, parce que ce sont tous des crétins, ce sont des beaufs, ce sont des conservateurs, donc il faut en finir avec tout ça. Puis en revanche, on aura des grandes usines dans lesquelles on aura des réfrigérateurs, dans lesquelles on aura des catalyseurs, dans lesquelles on aura des ordinateurs, de l'intelligence artificielle, etc. C'est-à-dire beaucoup de pollution. C'est-à-dire que les véganes n'imaginent pas que pour produire leur viande artificielle, il faut utiliser des instruments beaucoup plus polluants que le glyphosate éventuellement. Personne ne dit que ben, c'est très polluant d'avoir un téléphone portable, c'est très polluant d'avoir un ordinateur portable, c'est très polluant d'avoir un ordinateur à déplacer, enfin, etc., etc. Ah, mais là, on ne pollue pas. La télévision, c'est pas polluant non plus, mais si ça pollue et ça dégage plein de choses toxiques, etc. C'est-à-dire que tous ces gens qui veulent en finir avec l'agriculture, qui veulent en finir avec la paysannerie, qui veulent industrialiser l'agriculture, la fabrication et la production de viande, sont des gens qui aujourd'hui tiennent le discours des constructionnistes, le discours vegan, le discours à l'endroit des animaux et le discours qu'on retrouve aujourd'hui chez les islamo-gauchistes. C'est-à-dire, comme par hasard, fait une espèce de lien, sont les gens qui mangent qui sont des vegans, ils sont des défenseurs de la Palestine, qui en même temps sont des défenseurs des LGBT plus Q, etc., qui défendent en même temps, etc., etc. Et vous dites, bah oui, finalement, tout ça se tient, car il y a des gens qui ont intérêt à faire avancer la feuille de route qui est écrite sur la côte ouest des États-Unis, c'est-à-dire par les GAFAM, par des gens comme Elon Musk, etc., qui, eux, ont décidé que l'avenir de la civilisation, c'est eux qui allaient piloter tout ça, parce qu'il y a un fric fou à faire.
Et vous dites, les idiots utiles auront les rideaux quand ils décolleront, ceux-là pour partir,
mais absolument
ailleurs, ils les verront partir.
Et ben, si on veut une image qui pourrait peut-être parler aux gens, on imagine que s'il y avait une comète, enfin un bolide qui arrive sur la Terre et prêt à exploser, je pense que quand Elon Musk partirait dans sa fusée, il n'emmènera pas Mélenchon et Sandrine Rousseau. Et cela serait sur le
mérite du raccourci.
Voilà. Bon. Et cela serait sur le pas de tir et verrait la fusée partir et les autres.
Alors, on avance parce que ce que vous nous montrez aussi, et ça c'est saisissant, il y a des passages qui sont, j'allais dire même, j'ose le dire, un peu durs à lire, hein, franchement, parce que vous êtes cru au sens de direct. Hein,
c'est le réel qui est insupportable.
Oui, c'est ça, hein,
voilà. Pas ma narration.
Comme disait Lacan, le réel c'est quand on se cogne. Là, on se cogne à plusieurs reprises dans votre livre. Alors, le lecteur verra ce que vous écrivez sur la GPA, bien sûr, hein, la WBDD en anglais, en français dans le texte, gestation dans un corps entier donné. Hein, c'est la traduction en français, avec cette référence à cette personne un peu étonnante, Anas Badjor, qui a tous ses papiers en règle, comme dit Régis Debray, en matière de titre universitaire, hein, université d'Oslo, doctorat au Collège impérial de Londres, publié aux presses universitaires d'Oxford, et cette Madame Smadger propose, ni plus ni moins, si j'ai bien compris, qu'il y ait des grossesses avec une femme morte, dans le corps d'une femme morte. Hein. Et on revient au début de notre conversation, qu'est-ce que cet enfant aura eu comme rapport être dans le cadavre, voilà. Dans le corps d'une femme morte. Alors, tout ça, ça nous ramène d'ailleurs à des dystopies qui sont très classiques. Je pense, en vous lisant ces soleils verts de Fletcher, hein, quand à la fin du film, Charlton Heston dit « Le steak que vous mangez, c'est du corps humain. Mmh. C'est de la viande humaine. Hein, » dans cette fameuse usine de production de nourriture. Bon. Alors, on va terminer, parce qu'à un moment, vous dites « Nous n'avons guère changé le monde. » Depuis Hésiode et Homère, les hommes préfèrent toujours un mensonge qui les sécurise à une vérité qui les inquiète. Homère nous a quand même montré aussi que plus les hommes aiment se faire peur en utilisant, par exemple, des oracles les plus catastrophiques pour décider de leurs actes et de leurs choix, précipitant ainsi leur destinée. Par exemple, Ulysse, par exemple, il passe une partie de son temps à se comporter en fonction de ce qu'on lui prédit du futur. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à décrire un futur catastrophique pour, d'une certaine façon, engendrer des prises de conscience qui sont peut-être inutiles?
Non, là, vous avez raison. Quand je parle d'Homère et d'Hésiode, c'est juste pour dire il y a 3000 ans.
D'accord.
C'est pas pour dire de l'époque des Travaux et des Jours, de l'époque de l'Iliade et l'Odyssée, parce que, etc. Vous avez raison sur ces questions-là, hein, bien sûr. C'est une façon de dire que, presque depuis le début de l'humanité, les hommes n'ont pas changé. Je dis souvent...
Ça, c'est spinozien. Tout être tend à persévérer dans son être.
Oui, mais Spinoza ne dit pas exactement ça non plus. C'est-à-dire que ça n'exclut pas le progrès chez Spinoza. Enfin, c'est une autre question. Ouais. Mais j'ai beaucoup dit, moi, par exemple, que mon père était un contemporain de Virgile, qui était ouvrier agricole, oui, était un contemporain de Virgile. Hein, c'est-à-dire que il était paysan comme on l'était à l'époque de Virgile.
C'est les paysans de Millet dans l'Angélus.
Ben absolument, oui, c'est ça, bien sûr. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il faudrait aller voir très précisément ce que disait Virgile pour savoir si, etc. C'est une façon de parler. Mais non, je pense qu'effectivement, on n'a pas beaucoup bougé jusqu'à maintenant où on est en train vraiment de fabriquer du post-humain. Je pense que quand on a la possibilité aujourd'hui de numériser ce qui se passe dans votre cerveau pour le déplacer dans un autre support, qui peut être d'ailleurs votre cerveau cloné de façon à ce qu'on ait le même matériau génétique, et là vous vous dites c'est plus le même homme qu'on fabrique. C'est-à-dire que même si l'espérance de vie a bougé entre Homer, Hésiode et Virgile et aujourd'hui, il n'empêche que ça restait le même homme. Mais là, on a tout à fait autre chose. Cette idée que vous pourriez aujourd'hui avoir des souvenirs de choses que vous n'avez pas vécues, on sait le faire. C'est-à-dire, on crée chez les mouches des souvenirs de choses qu'elles n'ont pas vécues, vous vous rendez compte. C'est-à-dire, vous n'avez jamais lu La Recherche du Temps Perdu, enfin, je ne parle pas pour vous, mais quelqu'un qui n'a jamais lu La Recherche du Temps Perdu, on lui met dans le cerveau une lecture de La Recherche du Temps Perdu qui lui permettra de converser avec quelqu'un qui lui aura lu La Recherche du Temps Perdu. Mais en même temps, si on estime que vous avez lu, je ne sais pas, par exemple, le discours de la Boétie sur le discours de la servitude volontaire, en disant, mais ce truc-là, ce n'était pas nécessaire d'avoir ça dans le cerveau, on efface. Qui effacera ce qui se trouve dans le cerveau, qui placera dans le cerveau ce qu'il faudra y placer. Et là, on se dit, mais c'est toujours la gauche qui nous veut ce monde-là, c'est-à-dire une espèce de dictature qui serait pratiquée par quelques-uns dans un élitisme terrible. Et ce serait ça le progressisme, de dire on va choisir des individus dont on va augmenter l'intelligence. Tous ces gens qui pensent que l'intelligence augmentée, ce sera pour tout le monde. Je pense à Alexandre, par exemple, le professeur Alexandre. J'ai eu des débats avec lui qui dit ce sera l'équivalent d'un smartphone, ça coûtera 150 euros et on augmentera l'intelligence de tout le monde, etc. Mais je dis, mais vous rêvez? Bien sûr que non. Les gens des GAFAM n'ont pas envie d'une humanité plus intelligente. Ils auront envie d'une caste, d'un groupe qui, lui, sauvera sa peau parce qu'il y aura des milliards à des milliards de gens. C'est le problème de la démographie qui n'est jamais posé. Et quand ces gens-là auront une planète qui sera devenue invivable, non pas à cause des hommes, mais simplement parce que l'astrophysique nous en fait la démonstration, elle va réchauffer jusqu'à un moment donné où la vie ne sera plus possible, puis elle explosera. C'est comme ça ce qui est écrit. Hein. Et sauf à nier l'astrophysique, c'est quand même comme ça que ça se passera. Donc je pense que cette question, elle est vraiment là. Est-ce que les progressistes veulent qu'on vende des enfants, et qu'on achète des enfants, qu'on fabrique des esclaves, qu'on fabrique des abrutis, et qu'on s'appuie sur des idiots utiles pour faire de telle sorte qu'on tue la paysannerie, les animaux. Tous ces véganes qui nous disent il faut arrêter les animaux en captivité, et qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, d'accord, moi je suis président de la République végane et je dis, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les porcheries et puis on dit aux porcs, allez-y dans la campagne. On fait la même chose avec les haras, on fait la même chose avec les endroits où il y a des vaches, des veaux, etc., des brebis, des moutons. Mais il va se passer quoi? Et les animaux vont pas être très heureux. Ces animaux-là ne sont pas sauvages, ils ont été domestiqués. Donc des animaux domestiqués qu'on lâche dans la nature, c'est une sauvagerie totale pour ces animaux-là. Donc ils vont se faire bouffer par les lions, par les ours, par les renards, etc. Et on n'aura pas plus de bonheur dans l'humanité quand on aura fait ce genre de choses. Et puis après, ceux qui redeviendront sauvages deviendront dangereux pour les humains. C'est-à-dire que c'est l'homme qu'on fait disparaître dans cette aventure. Donc il y a un moment donné où les véganes ne sont pas conséquentialistes. Ils n'imaginent pas ce qu'est le réel parce qu'ils ont l'impression que l'auroch qui est dessiné sur les murs de Lascaux, c'est la même chose que le bœuf qu'on a dans une ferme aujourd'hui, dans une ferme de Normandie. Ça n'a évidemment rien à voir. C'est-à-dire qu'on ne sait plus penser à la nature et on la pense aujourd'hui de manière idéologique. Donc, plein d'écologistes sont incapables de savoir ce qui distingue un bœuf d'un veau, d'une vache, éventuellement même une brebis, d'une chèvre, d'un mouton ou ce genre de choses, qui sont incapables sur un étal de voir ce qui distingue un poisson plat d'un poisson blanc, ou d'un, etc., etc. C'est-à-dire, il y a une méconnaissance de la nature chez nombre de gens qui pensent l'écologie et chez ceux qui pensent qui seraient des paysans, une méconnaissance des engagements des vrais problèmes de l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a une confusion généralisée qui fait que de toute façon, c'est le train dont je parlais tout à l'heure, ça avance et au bout de la ligne, il y a un mur.
Alors vous montrez bien d'ailleurs en quoi ce projet, par exemple, de l'homme déconstruit aujourd'hui, et ni plus ni moins que la répétition du Jacobin voulu par Robespierre, ou moi je rajoute de l'Homo Sovieticus voulu dans bien les sûr. Années 30.
Ou de l'homme nouveau des fascistes.
Exactement. Alors, je termine parce que ça donne un mot sur, ça permet d'évoquer d'un mot l'Europe. Puis j'aurai une toute dernière question qui nous ramènera au règne animal, si je puis dire, et qui est liée à la dernière phrase de votre livre. C'est sur l'Europe, vous dites à propos de l'interruption volontaire de grossesse, parce que vous consacrez des pages à ce qu'on appelle l'interruption pour raisons médico-sociales.
L'IMG. L'interruption médicale de grossesse, voilà, qui n'est pas l'interruption volontaire de
grossesse.
IVG n'est pas IMG.
De faire la
bien sûr,
la
parce que ceux qui m'agressent disent que ma critique de l'IMG, c'est une critique de l'IVG. Voilà.
Je lis ce passage parce que c'est page 202, justement, ça reprend cette réflexion. Que l'IVG soit et demeure. Hein, et vous rappelez d'ailleurs le discours de Simone Veil à la tribune de l'Assemblée nationale en 1974, novembre 1974, quand elle dit « l'IVG devra rester l'exception ». C'est une évidence sur laquelle il convient de ne pas revenir. C'est ce que vous écrivez. Hein. Mais qu'elle devienne un étendard pour l'Europe, voilà qui raconte un certain nombre de choses sur ce qu'est cette Europe.
Oui, d'abord parce que, sauf quelques individus, personne ne remet en cause l'avortement aujourd'hui, le droit de l'avortement. Personne.
En Pologne, un peu comme c'était.
Non, je parle de la France, hein, mais vous avez raison. Sur certains, dans certains pays, Hongrie, Pologne ou quelques autres endroits, au nom du catholicisme, mais il n'y a pas non plus une espèce de mouvement massif qui fait que les opposants à l'avortement.
Les pro-life.
Oui, ils sont minoritaires. Et donc, on peut écouter ce qu'ils disent aussi. Moi, j'entends bien qu'on puisse ne pas vouloir l'avortement. Maintenant, je dis, si vous ne voulez pas l'avortement, n'avortez pas. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un devoir d'avorter, c'est un droit d'avorter. Donc, laissez ceux qui veulent avorter, avorter. Maintenant, faisons tout un travail en amont pour éviter que des jeunes filles aient à avorter, parce que ça n'est pas un moyen de contraception comme les autres. C'est ce que disait fort justement Simone Veil. Et donc, je dis simplement qu'il y a effectivement, dans certains États, des États-Unis, des gens qui veulent l'abolition de l'avortement.
Mais une Cour suprême qui a aussi quand même aux États-Unis qui a inversé la jurisprudence.
Oui. Mais c'est pas le cas en France. Il n'y a pas de crainte du tout. Donc je dis n'ayez crainte.
Vous êtes favorable ou pas vous à l'introduction de cette question de l'avortement dans la Constitution?
Non, justement, je pense que la Constitution n'a pas à prendre en considération ce genre de choses, pas plus que la protection de la planète ou je ne sais quoi. C'est une règle de fonctionnement politique, la Constitution. Ça ne gère pas la question des mœurs. Et pourquoi pas inscrire dans la Constitution la possibilité pour les homosexuels de se marier aussi? Pourquoi pas? Moi, je suis pour qu'ils se marient. Je suis pour qu'ils adoptent des enfants, je suis pour l'avortement, je suis pour la contraception, mais simplement, il n'y a pas lieu de mettre ça dans une Constitution qui, de toute façon, a été détruite, cassée, massacrée.
21 fois.
C'est 21 fois détruite, avec des coups de ciseaux partout. Les gens qui parlent aujourd'hui de la Constitution, je dis, mais laquelle? Et vous avez transformé ça en torchon, et ne vous réclamez pas aujourd'hui de la Constitution pour continuer vos forfaits. Donc, je vois pas l'utilité de dire que au fronton, alors pour le coup de la Constitution française, mais surtout de la Constitution européenne, c'était le désir de Macron, au fronton, on puisse dire que notre valeur, l'une des valeurs fondatrices de l'Europe, c'est l'avortement. Je pose la question en disant...
C'est symptomatique de quelque chose.
Voilà, je dis, qu'est-ce qu'une civilisation qui nous dit notre valeur, c'est pas liberté, égalité, fraternité, république, laïcité, féminisme, c'est pas ça, c'est avortement. Je dis, il se passe un truc, là, pour qu'on en fasse une espèce d'étendard civilisationnel. Voilà, je dis, il y a autre chose à faire dans une civilisation que de promouvoir ça. C'est comme si l'Union soviétique avait, ou peut-être la France de 1793, avait dit dans la Constitution, on mettra comme principe inébranlable la peine de mort. La guillotine, en disant, voilà, c'est ça qui nous caractérise. Je pense que quand une civilisation n'a plus que l'avortement à nous proposer comme horizon ontologique indépassable, c'est qu'effectivement, on est mort.
Alors, je lis les derniers mots de votre livre. Il ne manque pas de sel que ceux qui se disent progressistes aujourd'hui travaillent comme des forcenés au succès d'une civilisation ultra inégalitaire dans laquelle, idiot utile, ils rendent possible le salut de l'élite qui, quand il faudra quitter la Terre, devenue invivable pour des raisons astrophysiques, les regardera comme des gueux avant d'embarquer dans ses vaisseaux et partira d'un grand éclat, d'un grand rire qui les laissera, au début j'avais dit gros Jean comme devant, mais c'est gros Jean.
Gros Jean comme devant.
Ça s'écrit pareil. Hegel aurait parlé de ruse de la raison, on trouve le philosophe bien sûr, on peut aussi nommer cette bévue magistrale une immense farce. On me permettra de ne pas en être et de préférer mener une vie de rhinocéros. Alors, c'est quoi la vie du rhinocéros?
Alors j'avais lu la pièce de Ionesco, oui, en première.
Bien sûr.
Et j'avais pas compris grand chose en fait.
Ah oui, il faut dire que cet absurde-là est compliqué. Hein,
oui. Et il y a quelque temps, je me suis dit, tiens, je vais relire ça pour voir ce que
j'ai dans la séquence. Je relis ce que j'ai lu au collège et au lycée.
Oui, c'est ça. Et là, je me suis dit, mais quelle pièce magnifique. Donc, c'est une métaphore, évidemment, sur le devenir abruti d'une époque. Et donc, évidemment, avec la métaphore du rhinocéros. Et le rhinocéros, je veux dire, quand je dis ça, c'est l'animal qu'on n'arrive pas à atteler, quoi. C'est le personnage, c'est ce que Alain appelait l'âne rouge, c'est-à-dire un âne qu'on n'arrive pas à atteler. Et donc, effectivement, c'est refuser la contamination de l'idéologie dominante en disant non, moi j'en suis pas quoi. Si vous pensez effectivement que l'idéal c'est d'acheter, de vendre des enfants, d'utiliser le corps de femmes qui sont cliniquement mortes pour fabriquer des enfants en gestation pour autrui, si vous pensez qu'on doit pouvoir vendre ses organes pour vivre ou survivre, si vous pensez que c'est ça être progressiste, moi ça me gêne pas de ne pas être progressiste.
On va terminer, si vous permettez, Michel Onfray, puisqu'on en a évoqué à l'instant la Constitution, on n'a pas dit celle de 58, mais enfin bon, c'est bien celle-là dont il s'agit, par ce numéro hors série de Front Populaire, c'est votre revue, hein, et qui est Quoi de neuf, De Gaulle, une politique de civilisation, voilà. Et alors, c'est vraiment, c'est extrêmement riche. Il y a même un exercice qu'on appellerait un exercice de recomposition, si je puis dire. Je montre ce dessin. On vous voit faire une interview du général de Gaulle.
Comme avec, on est tous les deux comme.
Oui, alors c'est vous, de Gaulle. Hein, voilà. Moi, je ne serais pas de vous. Voilà. Merci à vous, Michel.
Mais l'exercice, ouais, justement, c'est de, pour moi, d'avoir ressorti des textes de majeurs du général, et puis de lui avoir posé des questions, en sachant très bien que la réponse était ça. Quand le texte est comme une réponse, il est facile de trouver la question, et je lui ai posé malicieusement ces questions.
Merci à vous, Michel Onfray.
Et moi, je
Merci.
Vous en prie.
Merci. Merci.